Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. 23 avril 2017, 20h. Alors que la France attend de connaître le nom de son nouveau président, elle voit se dessiner un nouvel horizon politique au-delà duquel aucun des deux partis de gouvernement ne franchit le cap du deuxième tour. En 2022, aucun ne franchira même la barre des 5%. Fallait-il y voir la réalisation de la prophétie d'Emmanuel Macron qui déclarait en novembre 2016 « les partis sont morts » ou celle de Miluchon qui affirmait en octobre 2017 « les vieux partis, les antiques structures ne nous aideront pas à nous en sortir ». Les politiques ne sont pas les seuls à danser sur la tombe des vieux partis. Les médias ont eux aussi largement pris leur part dans la diffusion de cet acte de décès, tout comme la communauté des sciences politiques. Et après tout, pourquoi leur reprocher? L'Italie de Pepe Grillo, l'Espagne de Podemos en Espagne, ou même à l'échelle locale le mouvement citoyen Nous Sommes, semble attester cette thèse du déclin des partis. À moins que la question ne soit pas la bonne, car qu'entend-on finalement par déclin? D'où vient cette approche collapsologique et comment s'est-elle imposée? C'est le premier pas épistémologique que nous invite à faire notre invité avant d'interroger les indicateurs et les concepts scientifiques utilisés pour attester ce déclin. Alors, notre invité a publié en septembre dernier deux ouvrages sur les partis, un livre intitulé « Fin de partie » et un autre, un manuel co-rédigé avec Florence Hegel et Carole Bachelot, qui s'intitule « Introduction à la sociologie des partis politiques ». Alors on parlera ici essentiellement du premier, et on en a beaucoup à dire, avec nous dans une interview long format de 30 minutes, Alexandre Dézé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques, donc au CEPEL.
C'est vrai.
Bienvenue dans Allume la science. Alors elle est une partie du grand tout qu'est Allume la science, avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour Lucie, bonjour tout le monde.
Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
Alexandre Dézé, pour commencer, ma première question, elle va concerner le terme même de collapsologie. Alors, peut-être que beaucoup comme moi ont associé ce terme à l'écologie, notamment avec Pablo Servigne. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la collapsologie?
Alors, la collapsologie, normalement, ça renvoie à toutes les théories qui diagnostiquent une dégradation, sinon un effondrement de notre civilisation actuelle. Moi, je me suis servi du terme pour l'appliquer à un courant important de la sociologie des partis. Donc, je parle dans le livre de collapsologie partisane. Donc, ici, ça veut dire en fait toutes les théories qui renvoient, ou qui défendent l'hypothèse d'un effondrement du monde ou de l'ordre partisan. Voilà.
Alors, vous situez donc bien la naissance de cette théorie aux États-Unis dans les années 60. On pense donc au Vietnam, à la lutte pour les droits civiques, à la montée des inégalités. C'est dans ce contexte que naissent les concepts de réalignement et de désalignement partisan. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et comment cette théorie va devenir un des standards de la politique américaine?
Alors, c'est vrai que cette théorie de l'effondrement des partis politiques, elle naît aux États-Unis autour d'un certain nombre d'auteurs, notamment un auteur qui s'appelle Burnham, qui est un disciple d'un autre grand politiste de l'époque qui s'appelle Kay, et tous les deux ont mis au point une espèce de cadre théorique de l'évolution de la vie politique américaine qui est centré autour de ce qu'ils appellent les réalignements partisans. Et en fait, pour eux, de manière cyclique, à peu près tous les 30-40 ans, la vie politique américaine, depuis qu'elle a pris sa forme moderne, c'est-à-dire fin 18e, début 19e, est marquée par des bouleversements très importants qui voient les principaux partis s'effondrer en termes de soutien électoral, de loyauté. On voit apparaître d'autres partis, ce qu'on appelle aux États-Unis des tiers partis, donc des partis concurrents. Et donc ça reconfigure en quelque sorte l'ordre partisan. Et il se trouve que Walter Burnham voit dans le contexte que vous avez rappelé des années 60-70 autant de causes en fait qui vont générer une nouvelle phase de réalignement partisan, et ça il le mesure à travers différents indicateurs comme l'identification partisane. Alors, c'est quelque chose de très important aux États-Unis, c'est un concept qui a été forgé à l'université de Michigan, c'est le rapport affectif que les Américains entretiennent soit avec démocrate ou républicain. Et il se trouve qu'effectivement, dans les années 50-60, on mesure des niveaux d'identification partisane très élevés. C'est très répandu dans la population, c'est très prédictif du vote. Et dans les années 70, cette identification partisane baisse. On voit un rapport distancié s'installer des Américains à l'égard des partis. Il y a effectivement des partis concurrents, des tiers-partis qui se font jour. Il y a une baisse de la participation. Donc en fait, dans tous ces indicateurs, et sans vraiment s'interroger sur l'état des partis, Burnham, qui était déjà une figure importante de la science politique américaine, qui enseignait au MIT, dit les partis sont en train de nouveau de s'effondrer aux États-Unis. On rentre dans une nouvelle phase critique de désalignement, de réalignement, parce que les termes ne sont pas très bien définis, partisans. Donc on entre dans une phase de crise des partis, et pour lui c'est ni plus ni moins que le début en fait, ou l'annonce de la fin des partis.
Alors finalement, cette fin n'aura pas lieu. Le déclinisme américain, il continue de s'imposer jusque dans les années 80, mais petit à petit, il s'affaiblit au profit d'une nouvelle théorie, donc revivaliste. Vous citez Maurice Fiorina qui déclare « Les mots en D ne sont plus à la mode. Les mots en R les ont remplacés. Les partis sont de retour. Ils revivent, renaissent, sont ressuscités. » Alors ce changement de paradigme, comment on l'explique ?
Alors, on l'explique tout d'abord par un changement de contexte. C'est vrai que les années 60-70 aux États-Unis sont vraiment des années politiques compliquées. Hein. Encore une fois, la guerre du Vietnam, les émeutes urbaines, la crise économique et sociale, ça change complètement par rapport aux années 50, qui sont les années 50 de célébration du mythe républicain de la way American of Life. On est certes dans un contexte international agité avec la montée de la guerre froide, mais comme le disent les analystes à l'époque, en fait, les Américains regardent ça avec comme des spectateurs, quoi. Ça ne les concerne pas tellement. Donc les années 60-70, c'est vraiment un moment de bouleversement du rapport aux politiques, parce que les Américains sont directement touchés en fait, dans leur vie quotidienne. La guerre du Vietnam, c'est un très bon exemple. Il n'y a pas une famille américaine qui n'est pas concernée. Bon, il se trouve que les partis politiques connaissent effectivement un passage de crise dans les années 60-70, mais d'une part, ils vont entreprendre tout un travail de réforme dans les années, milieu des années 70, en quelque sorte, que ce soit dans le camp démocrate ou le camp républicain, c'est-à-dire ils vont réfléchir à qu'est-ce qui permet de restructurer les organisations partisanes. Et puis, ce qui change aussi, c'est le point de vue sur les partis. Alors, les réformes sont importantes, mais il y a une contestation de plus en plus forte, en fait, du paradigme décliné de la part d'un certain nombre de chercheurs, pour une simple raison, c'est que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Burnham s'intéresse que à la dimension électorale en fait, des partis. Il y a une tradition d'études aux États-Unis qui découpe les partis en trois dimensions. Le parti, alors ce qu'ils appellent le parti des militants, c'est-à-dire on the ground, c'est-à-dire sur le terrain en quelque sorte, quoi. Le parti au gouvernement, et puis le parti dans la dimension électorale. Et dans la sociologie des partis américains, c'est vraiment cette dimension électorale qui compte, et c'est quasiment la seule qui a servi à diagnostiquer la crise des partis. Ce que vont faire certains chercheurs, c'est en fait déplacer le regard et non plus regarder la dimension électorale, mais regarder la dimension organisationnelle. Et donc ils vont renouer avec les approches organisationnelles de la fin du 19e, début du 20e, telles qu'on les pratiquait notamment en Europe avec Roberto Michels, Moshe Ostrogorski ou même dans une certaine mesure Max Weber. Et ils vont se rendre compte que d'un point de vue organisationnel, en fait, les partis américains ne vont pas si mal que ça. Et puis on le voit finalement, ils continuaient à structurer la vie politique américaine. Sans parti politique, impossible de faire campagne. Ils tiennent à peu près tous les échelons du pouvoir aux États-Unis. C'est ça, en fait, qu'on redécouvre. C'est comme si, tout d'un coup, on voyait les partis sous un nouveau jour, en fait.
Alors, à la fin des années 90, cette théorie décliniste, elle est développée, qui est évoluée aux États-Unis, elle se répand en Europe. Alors, vous dites que ce copier-coller de la théorie américaine sur la réalité européenne n'est pas forcément adapté et que l'analyse collapsologique ne correspond pas au contexte européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, quelles sont les différences ?
Oui, c'est très très bizarre. Il y a à la fois un phénomène d'exportation de la thèse décliniste en Europe et en même temps d'importation de cette thèse. Par exemple, Burnham, que je viens d'évoquer, comme sa théorie marche finalement pas si bien que ça aux États-Unis, il va essayer de la développer au cas britannique notamment, qui se rapproche effectivement d'un point de vue configurationnel du système politique américain. On est sur deux partis, les problèmes de rapport aux partis se posent à peu près dans les mêmes termes. Donc ils prennent l'outillage conceptuel forgé par les déclinistes américains et ils le transposent. Donc Burnham fait ça. Et puis il y a un politiste britannique très important qui s'appelle Ivor Crewe et qui est très inspiré par Burnham et qui applique lui-même en fait ce cadre analytique. Mais ça marche pas. Donc c'est très bizarre, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un cas typique d'imposition de problématiques. Il y a même une volonté de la part d'un certain nombre de chercheurs, d'impérialisme conceptuel, parce que vous avez toute une équipe d'Américains qui se disent bon, les chercheurs européens comprennent rien à la vie politique européenne et à la vie partisane, nous on va aller leur expliquer, nous on dit les partis ça va pas, et en fait ils arrivent même pas à le prouver. Donc ceux qui utilisent cette grille à l'époque l'utilisent, et puis dans leurs articles, c'est très, ou leurs contributions, c'est très particulier, parce que tout d'un coup on se rend compte, ils se disent ça marche pas, ou ça marche très peu. Et effectivement, dans les années 80, en Europe, on n'est pas du tout sur une crise des partis.
Alors, pourtant, donc, cette thèse, elle va devenir centrale, y compris en Europe. Donc, on va s'intéresser justement aux indicateurs qui sont utilisés donc, pour asseoir cette théorie du déclin des partis. Vous en distinguez trois types. Les indicateurs électoraux, organisationnels, fonctionnels. Ils sont devenus des normes dans la science des partis. Et tout au long de votre ouvrage, vous allez les déconstruire et montrer comment ils souffrent d'handicap épistémologique. Je reprends votre formule. Alors, on commence avec les indicateurs électoraux. Un des premiers que vous abordez, c'est l'identification, vous en avez parlé, et la proximité partisane. Pourquoi ce n'est pas pertinent pour mesurer le déclin des partis, finalement ?
Alors, la proximité partisane, c'est effectivement l'équivalent conceptuel européen de l'identification partisane. On parle moins en termes de rapport affectif que de distance, donc de proximité ou de non-proximité d'ailleurs aux partis politiques. Alors pourquoi c'est pas un concept pertinent? Parce que en fait il suffit de changer, comment on mesure la proximité partisane? Par des enquêtes. On demande aux gens: est-ce que vous vous sentez proche de tel parti? Mais en fonction de la formulation de la question, et si dans cette question par exemple on introduit ou non une liste de partis en disant aux gens, est-ce que vous vous sentez proche des Républicains, du Modem, du Parti communiste, etc., etc. Quand on le fait, ou si on ne le fait pas, en fait, on modifie complètement les réponses, et dans des proportions qui sont extrêmement élevées. C'est-à-dire, en gros, dans un rapport de 1 à 2. C'est-à-dire, il y a deux fois plus potentiellement de gens qui se disent proches d'un parti quand vous indiquez la liste des partis. Donc, en gros, ce qu'on comprend ici, c'est que la proximité partisane ou le niveau de proximité partisane est juste dépendant de la manière dont on formule la question pour mesurer cette proximité. Du coup, c'est un indicateur effectivement extrêmement, extrêmement critique.
Vous évoquez également dans les indicateurs de nombreux sondages qui concluent à une baisse de confiance des citoyens envers les partis, et vous montrez que ces sondages, tout comme cet indicateur de confiance, il est fragile et qui dépend aussi beaucoup de la façon dont on questionne les gens. Comment on la mesure, la confiance, et pourquoi c'est bancal?
Justement, il y a un impensé important dans ces questions-là, c'est qu'on demande aux gens: est-ce que vous avez confiance dans les partis politiques? Je veux dire, personne ne se réveille le matin, c'est l'exemple que je prends toujours avec mes étudiants, mais personne ne se réveille le matin en se disant: tiens, j'ai confiance dans un parti, ou j'ai confiance. Alors, il faut voir que cette question sur la confiance dans les partis s'insère dans des grandes enquêtes sur la confiance dans les institutions. Donc on demande aux gens: est-ce que vous avez confiance dans l'Assemblée nationale? Pourquoi pas, on peut estimer qu'ils la connaissent, mais après il y a le Sénat, il y a la Cour des comptes, il y a le Conseil économique, social et environnemental.
Et en fait, est-ce que vous avez confiance dans le Sénat?
Voilà, alors je sais pas, pour avoir confiance en quelque chose, il faut déjà connaître cette chose. Bon, le Conseil économique, social et environnemental, très concrètement, quand on le voit dans les enquêtes, il y a quasi une personne sur deux qui dit: j'ai confiance dans le 16, pour reprendre son acronyme. Mais quand on leur demande s'ils connaissent le 16, il y a 4% qui répondent. Donc en fait, l'impensé ici, c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme en fait des sondeurs, ou de ceux qui posent les questions, c'est-à-dire qui considèrent que les gens à qui ils posent cette question ont autant d'intérêt et de connaissances que de la politique. Et ce qu'il faut, en fait, ce que montre la science politique depuis longtemps, c'est qu'il y a une distribution très inégale d'un point de vue social de l'intérêt et de la connaissance politique dans la population. Donc quand on dit aux gens: est-ce que vous avez confiance dans les partis? D'abord, il faudrait savoir s'ils connaissent ces partis, s'ils connaissent les orientations de ces partis. Et puis, qu'est-ce qu'on demande ici? On demande confiance dans les partis en général, dans les partis en particulier. Est-ce qu'on pourrait pas avoir confiance dans plusieurs partis? Tout ça, ce sont des impensés très lourds, en fait, de la manière dont on enregistre et objective la réalité sociale en général, et puis la réalité politique en particulier. Et l'objet du livre, c'est vraiment de dire, attention, parce que en fait, on crée de manière artificielle des phénomènes qui ne correspondent pas forcément à la réalité.
Alors vous évoquez aussi la volatilité des votes, donc l'éparpillement en fait, c'est ça, des votes. Alors on se dit que bah oui, c'est vrai, c'est sûrement un signe du déclin des partis. Et finalement, vous vous dites que non, pas vraiment, avec d'autres chercheurs d'ailleurs qui disent que c'est un pseudo-concept, voire un concept trompeur. Alors pourquoi ?
Absolument, bah parce que pour les mêmes raisons, c'est-à-dire plusieurs manières. D'abord, il n'y a pas de définition consensuelle de la volatilité et il y a beaucoup, beaucoup de manières de la mesurer. Alors, un seul exemple, par exemple, si vous n'avez pas envie vraiment de faire apparaître de la volatilité, vous allez mesurer les transferts électoraux de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche d'une élection à une autre. D'accord ? Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a en moyenne un électeur sur 10 par élection qui franchit le Rubicon gauche-droite. 1 sur 10, on se dit, c'est pas beaucoup. Mais si vous changez d'échelle et que cette fois-ci, vous prenez tout le spectre des partis politiques et que vous retracez en fait les trajectoires des électeurs d'une élection à une autre, en regardant par où ils sont passés à gauche et par où ils sont passés à droite. En fait, ce que vous allez pouvoir observer, c'est une volatilité très forte. Ce qu'ont essayé de démontrer un certain nombre de chercheurs, c'est que cette volatilité, elle a toujours existé, mais on a commencé à l'observer, enfin, on a commencé à l'enregistrer parce qu'on a commencé à l'observer. C'est un peu comme les étoiles. Plus on fabrique des télescopes puissants, plus on découvre qu'il y a des... Bon, bah là, pour la volatilité, c'est la même chose. Et le problème, c'est que là, on est en fonction... De la manière dont vous concevez l'outil, et le niveau de volatilité va passer potentiellement de 1 à 5. Donc soit vous avez envie de dire qu'il y a de la volatilité, soit vous avez envie de pas dire qu'il y en a. Et généralement, les déclinistes, ils ont envie de dire qu'il y a de la volatilité. Donc ils utilisent des outils qui, évidemment, confortent plutôt leur hypothèse. C'est pour ça qu'on parle effectivement de pseudo-concept, parce que c'est quelque chose qui est bien installé. Hein. Et puis en plus, quand on parle de volatilité, on a un peu l'impression d'être déjà dans le registre de l'analyse scientifique, alors que c'est un concept très, très faible, très mou, très lui-même volatile en fait.
Alors vous déconstruisez également l'argument de l'abstention comme signe de déclin des partis et vous le qualifiez même d'artefact. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Alors ce que je qualifie d'artefact en fait c'est l'abstentionnisme politique. L'un des principaux indicateurs pour un certain nombre d'observateurs de la crise politique et donc de la crise des partis politiques, c'est l'abstention. Et pourquoi ils considèrent que c'est l'un des principaux symptômes de cette crise ? Parce que l'interprétation dominante qui est faite de l'abstention, par la plupart des commentateurs, mais aussi par un certain nombre de politologues, cette interprétation, c'est une interprétation de type politique. C'est-à-dire, si les gens s'abstiennent, c'est forcément pour des raisons politiques. Alors, bon, très bien, mais le premier réflexe du sociologue, c'est de dire, ça m'étonnerait, parce que le degré, encore une fois, de connaissance de la politique, il est relativement faible, donc pour s'abstenir pour des raisons politiques, il faut connaître la politique, il faut s'informer sur la politique, il faut débattre politique, il faut lire les programmes des acteurs politiques, il faut les entendre débattre, etc., etc. Et ça, cette pratique-là, elle est très, 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 très minoritaire, en fait. Mais malgré tout, on voit qu'un abstentionnisme politique ressort des enquêtes. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ceux qui conçoivent les enquêtes sur l'abstention conçoivent ces enquêtes à partir de questions fermées. Donc ils imposent ou ils proposent, enfin on dit ils proposent, mais ils imposent des réponses aux répondants. Et quand on regarde ces réponses, en fait, elles sont toutes de nature politique. Alors pourquoi vous abstenez ? Parce que je ne suis pas satisfait de l'offre politique, parce que les acteurs politiques m'ont trop déçu, parce que les programmes ne sont pas à la hauteur, etc., etc. Donc en fait, les gens cochent des réponses politiques qui, par retour, politisent l'abstention. C'est là qu'on est dans la dimension artefactuelle, en fait. C'est que, encore une fois, c'est l'enquête qui crée, qui produit, qui génère l'abstentionnisme politique. Il y a bien une fraction de l'électorat qu'on peut qualifier d'abstentionniste politique, mais en fait, les principaux facteurs de l'abstention, ce sont des facteurs généralement sociaux. C'est-à-dire, en gros, moins vous avez un niveau de diplôme élevé, moins vous avez un niveau de revenu élevé, plus vous êtes en bas de l'échelle sociale et plus vous allez avoir tendance à vous abstenir. En fait, quoi. Et puis, il y a un autre problème qui est le problème de la mal-inscription. On s'est rendu compte que les gens n'étaient pas bien inscrits. Il y a plusieurs dizaines de millions en fait, de gens en France, 7 millions en fait, qui sont mal inscrits. Et quand vous êtes mal inscrit, ça multiplie par 3,5 la probabilité de ne pas aller voter. C'est là en fait, qu'on trouve les principales explications de l'abstention.
Alors de la même manière, dans les parties suivantes, vous allez déconstruire donc les indicateurs organisationnels, on va passer un peu plus vite, donc notamment le nombre d'adhérents, vous montrez que finalement c'est pas un critère pertinent pour montrer la vitalité d'un parti. Vous allez également parler de la forme avec ce fameux mouvement dont on a beaucoup entendu parler. Et vous parlez aussi donc des arguments fonctionnels et que tout ça en fait aboutit à dire que ce n'est pas des arguments pertinents pour parler donc, du déclin. Je renvoie vers votre livre. Et arrivé à ce moment-là, donc, on comprend qu'on a peut-être vendu la peau du parti avant de l'avoir tué. Et en même temps, que bah, c'est tellement un discours dominant dans lequel on est nous-mêmes tous baignés par la presse et par les sciences politiques. Qu'on est en droit de se demander comment cette thèse elle est devenue aussi centrale. Et votre première explication, donc, c'est celle du renoncement épistémologique. En gros, les sciences politiques, elles se sont affranchies de la nécessité de définir des concepts.
C'est vrai. C'est-à-dire que c'est une discipline étrange qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour la réflexivité, c'est-à-dire pour le questionnement sur les outils qu'elle forge, qu'elle utilise pour analyser le monde politique. Et c'est presque criant, en fait, dans la sociologie des partis politiques. Peut-être parce que la sociologie des partis est dominée par une science politique internationale très, très macroscopique, en fait très quantitative aussi. Hein. En gros, c'est le chiffre qui parle, surtout. En France, on est beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus microscopique. Et puis, les considérations épistémologiques sont très faibles chez un certain nombre de chercheurs, y compris, et notamment, c'est remarquable, chez la plupart des déclinistes. Une grande figure des partis, comme Peter Mayer, qui était vraiment une star mondiale des partis politiques, reconnaissait lui-même que l'épistémologie, ça ne l'intéressait pas.
Ce que vous montrez, c'est que finalement, ils avouent que certes, les concepts sur lesquels ils se basent, ils sont un peu, c'est un peu bancal, mais on y va quand même, en fait.
Absolument. Ce qui est confondant, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à trouver dans le travail d'archives bibliographiques un tel aveu, en fait, de paresse réflexive. Et c'est ce qui m'a questionné sur la manière dont on a construit la sociologie des partis. Et je pense que ce raisonnement-là pourrait être étendu à pas mal de champs de recherche en sciences politiques. C'est qu'en fait, on se retrouve avec un ensemble de savoirs dont les fondations sont extrêmement fragiles. Donc moi, je me questionne parfois, je fais cours sur les partis, et je me dis... qu'est-ce que je dois enseigner en fait à mes étudiants, parce que je leur enseigne un certain nombre de concepts dont je pense qu'ils mériteraient d'être vus. Et pourtant, on enseigne ça à vos étudiants depuis des décennies maintenant.
Et oui, ça pose la question effectivement, comment on fait de l'analyse comparative si finalement chacun part de sa définition à soi, en fait.
Alors exactement, on parlait du concept d'identification partisane tout à l'heure. Par exemple, le premier problème, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent en France de l'identification partisane. La proximité partisane, l'identification partisane, on n'a pas la même chose. Mais dans les programmes d'enquête européens, on s'en fiche un peu, on pense que c'est à peu près la même chose, donc on compare des choses. Mais en fait, qui ne sont pas comparables. Et ça, c'est des points... c'est comme si on avait oublié le code de conduite, en fait, du chercheur. Un certain nombre de collègues, notamment, appartenant plutôt au courant de la science politique anglo-saxonne, sont assez paresseux, se relâchent un petit peu. J'ai appelé ça le relâchement épistémologique. Quoi.
Justement, au-delà de cette explication qui est cette fameuse paresse épistémologique dont on a parlé, on parle aussi davantage d'idéologie. Il y aurait l'existence d'un courant de pensée antipartidaire en sciences politiques. Vous pouvez nous en parler ?
Absolument. Ça va avec, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de questionnements des individus en ce qui concerne leur rapport à l'objet. Et c'est un trait frappant d'une grande partie de la science politique des partis. Alors, au moment où cette science des partis se fonde, on est sur des auteurs qui sont très partisans. Ostrogorski, par exemple, qui est un des premiers auteurs.
Ils ont tous des noms incroyables, les chercheurs en
sciences politiques. Ils ont tous, par ailleurs, des noms incroyables. Alors, Ostrogorski était d'origine russe, il est venu enseigner en France, il a publié son bouquin en Grande-Bretagne. Et c'est un des premiers, effectivement, à réfléchir sur les partis. Avec Michels, à mettre en évidence le fait que les partis qui se réclament de la démocratie ne sont pas si démocratiques que ça, mais tournent au profit d'oligarchies partisanes. Mais quand on lit, on a fait, par exemple, du livre d'Ostrogorski, un grand classique de la science politique, alors qu'il n'arrête pas de dire dans son bouquin, et ça montre que personne ne l'a lu. Rosan Vallon a écrit une préface de ce bouquin en disant « Tout le monde connaît Ostrogorski, mais qui a lu Ostrogorski ?» Et en fait, il a raison, personne n'a lu Ostrogorski. Donc quand on lit Ostrogorski, on se rend compte que ce bouquin est un pamphlet contre les partis. Et cette tendance antipartidaire, en fait, elle n'a jamais vraiment disparu de la science des partis, y compris dans des ouvrages et des travaux beaucoup plus récents. Maurice Duverger, je pense que c'est un nom que tout le monde connaît à peu près, les partis politiques... Ça date de 1951, il dit, les partis de 4, c'est fini, maintenant c'est le règne des partis de masse, donc le meilleur parti, c'est en gros les partis sociodémocrates et les partis communistes. Celui qui lui succède dans la modélisation des partis, c'est Kirchheimer. Et Kirchheimer, à la fin de son chapitre, il dit... Vraiment, on va regretter la disparition du parti de masse. Maintenant, si on est sur des partis attrape-tout, ils font n'importe quoi, l'idéologie, ça les intéresse plus, les militants non plus. Ce qui compte, ce sont les leaders. Ils s'ajustent aux nouvelles ressources technologiques, la télévision. Et en fait, on est sur une vision déplorative constante, comme ça, des partis qu'on repère encore ailleurs. Chez Peter Mayer, par exemple, les derniers écrits de Peter Mayer, ce sont des écrits déclinistes, sinon, pour le coup, collapsologiques. Il y a un certain nombre de témoignages de ses collègues et de ses étudiants qui disaient, et voilà, il est devenu très, très pessimiste sur la démocratie à la fin de sa vie. Il est décédé d'une crise cardiaque en faisant du vélo trop jeune, quoi. Donc, il n'a pas eu le temps de finir son œuvre. Mais c'est très étrange. On voit bien qu'ici, il y a une subversion des règles fondamentales de la pratique scientifique. C'est-à-dire, on ne se pose plus de questions sur l'objet, on ne se pose pas de questions sur les indicateurs, on produit des connaissances et on les impose de là où on est, donc des positions généralement dominantes par ailleurs.
C'est ce que vous montrez en retraçant justement la carrière de ces grands noms de la science politique. C'est que finalement, si ça s'est imposé comme une théorie centrale, c'est aussi parce qu'eux-mêmes occupaient des positions dominantes dans le champ de la science politique.
Oui, absolument. Il y a un collègue qui me disait, mais ça, c'est tu fais un raisonnement tautologique. Mais alors, absolument pas. Je pense que c'est le contraire. Ce qu'il faut pouvoir montrer, c'est comment cette thèse s'est imposée. Et cette thèse, elle passe effectivement par une analyse du champ scientifique, des positions occupées dans le champ scientifique, du capital accumulé par ces individus. Peter Mayer, c'est quelqu'un qui contrôlait complètement le circuit éditorial en sciences politiques au niveau européen. C'est lui qui formait quasi les meilleurs doctorants à Florence, à l'institut universitaire. C'est lui qui disait en fait ce qu'était la science politique légitime. Et c'est le même qui effectivement déclarait sans retenue, bon, l'épistémologie, ça ne m'intéresse pas.
Alors, on se rapproche de la fin de votre ouvrage et aussi de notre interview. Je vois qu'on fait signe pour le temps. Vous terminez, du coup, en se demandant donc, si cette théorie du déclin des partis, elle apporte quelque chose en termes de connaissances sur les partis. Donc, on a bien compris que pas vraiment. Et donc, il est peut-être temps de se demander exactement ce que c'est, en fait, que les partis, plutôt que de parler du déclin des partis, parler donc du déclin des partis.
Oui, et vous intéressez aussi justement dans l'ouvrage à la fin à la résilience de ces partis. Vous dites qu'il faudrait appréhender les partis tels qu'ils sont et non tels qu'ils sont plus. Et justement, ça ne se limite pas à l'Europe et aux États-Unis. Commencez ailleurs, parce que c'est relativement universel, les partis.
Absolument. On oublie que le phénomène partisan est un phénomène universel. Il y a quasiment aucun pays au monde en fait, qui n'a pas de parti. On compte 6 démocraties apartisanes dans des micro-États en Indonésie, c'est assez intéressant d'aller lire ça. Donc, ce qu'on devrait constater, c'est non pas la fin, l'effritement, la disparition des partis. Là, c'est très franco-centré, par ailleurs, européano-centré, comme point de vue. Mais les partis sont partout, structurent la vie politique. Et je ne sais pas pourquoi, on n'a pas envie de considérer qu'au même titre que plein d'autres choses, les partis changent. Donc, ils sont effectivement pas les mêmes qu'il y a un siècle. Les technologies pour faire partie change aujourd'hui. Hier, il fallait un programme, une organisation. Aujourd'hui, il faut surtout être en fait sur Internet. Donc, toutes nos pratiques sociales sont maintenant quasiment numériques. Il n'y a pas de raison que les partis n'aient pas suivi cette évolution. Et pourtant, beaucoup d'observateurs disent non, c'est regrettable. On n'a plus les partis d'hier. Les partis ont changé. Ils se vident de leurs militants. Mais maintenant, ce qui compte, c'est plus tellement d'avoir des militants, c'est surtout d'avoir des followers. Donc, il y a un a priori très conservateur qui travaille également ces partis. On n'a pas envie que les choses changent. Donc, c'est vrai que les déclinistes on a raison de les appeler comme ça parce qu'ils ont un point de vue plus général sur le monde qui, selon eux, est un monde qui est en déclin.
Donc finalement, ce que vous montrez dans votre livre, c'est que plus qu'une crise des partis, on assiste à une crise de la science des partis, en fait.
Oui, absolument. Moi, je pense que ce que révèle ce livre, c'est les manières très, très étranges et très discutables dont la science des partis s'est constituée. Et donc, je pense qu'il est temps de revenir sur l'édification, justement, de cette discipline. Et peut-être même d'un certain nombre de champs de recherche en sciences politiques, parce que je pense que ce n'est pas le seul objet qui a été construit de cette manière-là. Dans un moment par ailleurs de construction et d'affirmation des sciences sociales. Finalement, ce sont des disciplines qui ont pas beaucoup plus qu'un siècle. Donc, c'est des choses très, 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 très récentes. Mais après cette phase d'édification, il serait bien peut-être de faire une sorte d'inventaire de là où on en est et des outils dont on dispose pour analyser le monde social et politique.
Très rapidement, il a été reçu comment, votre livre ?
Alors, mes parents ont bien aimé.
C'est important.
Voilà. Alors, il a été... pour moi, c'était un livre important. Et un de mes collègues, que je considère comme un des meilleurs politistes en France et un des meilleurs spécialistes des partis, et qui s'appelle Rémi Lefebvre, m'a dit « c'est un livre important ». Donc je l'ai pris comme un compliment. Et voilà.
Eh bien, on aurait pu y passer une heure facilement et même bien plus. Donc on vous invite à aller mettre votre nez dedans. Rappelez-nous, donc là, j'ai pas cité la maison d'édition, je crois.
Alors ce sont les presses de Sciences Po. Voilà, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, avec qui j'ai la chance de collaborer depuis quelques années maintenant.
Un grand merci à vous, Alexandre Desais, c'était passionnant.
Merci à vous surtout pour la lecture de cet ouvrage.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.